parti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous écoutez Transistor, nous sommes le vendredi 13 novembre 2020 et vous retrouvez ce soir un JRA confiné, un JRA décalé, mais un JRA bien réveillé car il est 20h et c'est donc l'heure de l'actu mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Votre journal a fait une longue pause mais il est de retour pour décrypter l'actualité avec vous. Au programme ce soir, on parle de décence de président et de dents contre le projet de loi de sécurité globale. Il y aura aussi bien sûr de la culture, du sport et un peu d'écologie. On commence tout de suite avec l'international, Nicolas.
Oui, le message est tombé le 9 novembre 2020. Dans le Haut-Karabakh, région du Caucase peuplée majoritairement d'Arméniens, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé l'arrêt temporaire des hostilités et c'est très clairement un cessez-le-feu, une paix signée Poutine. La Russie étant un très proche partenaire militaire de l'ex-soviétique d'Azerbaïdjan. En effet, la défaite est vraiment cuisante pour les Arméniens puisqu'ils perdent le contrôle militaire du Haut-Karabakh au profit d'une, je cite, « force de paix russe » puisque l'Azerbaïdjan reprend le contrôle de l'intégralité de sept districts voisins du Haut-Karabakh qui étaient en train de lui échapper et que les Azerbaïdjanais, de leur côté, expulsés, retournent chez eux sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Tandis qu'à Bakou, on célèbre la revanche sur la première guerre du Haut-Karabakh qui a eu lieu entre 1988 1994, c'est la colère populaire qui prime à Yerevan, où des manifestations ont pris d'assaut des lieux de pouvoir symboliques de la capitale.
Et au Chili, dimanche 25 octobre, les Chiliens ont voté lors du plébiscite historique qui a été organisé pour savoir si le pays devait changer de constitution. Se débarrasser de la constitution de la dictature de Pinochet pour en écrire une nouvelle qui soit plus juste était une des revendications de la révolution sociale entamée en octobre 2019 dans tout le Chili. Les Chiliens et Chiliennes se sont mobilisés en masse le jour du vote, notamment les jeunes qui tournent d'habitude le dos à l'urne. Et c'est le oui au changement de constitution qui l'a emporté avec plus de 78% des votes. C'est une large victoire qui donne de la légitimité au processus constitutionnel. Le vote concernait également les modalités de la rédaction de la Constitution et les Chiliens ont voté en très grande majorité pour une assemblée constituante paritaire, composée des seuls citoyens et citoyennes élus sans parlementaires. Les membres de l'Assemblée seront élus en avril 2021 et une fois rédigé, le projet de Constitution sera soumis au vote en 2022.
Du côté de l'Éthiopie, de nombreux civils ont été tués dans un massacre au Tigré, région dissidente du nord du pays. Assassinés par des forces loyales au parti du pouvoir, ces personnes ont fait les frais d'un conflit violent. Oppose depuis le 4 novembre le Premier ministre Abiy Ahmed au TPLF, le Front de Libération des Peuples du Tigré, parti dissident au pouvoir dans la région du Tigré. Amnesty International dénonce un massacre et annonce 11 000 personnes ont fui au Soudan pour échapper au combat. Attaque qui ravive les rivalités communautaires en Éthiopie et interroge sur l'avenir politique de son premier ministre, prix Nobel de la paix 2018, qui cherche par tous les moyens à regagner le contrôle d'une région stratégique frontalière avec le Soudan et servant de couloir pour l'acheminement de marchandises et d'armes. Les opérations militaires se poursuivent, mais les journalistes n'ont pas accès à la zone de conflit. Suivre de près.
Et on passe au national maintenant, puisque nous sommes le 13 novembre. Il y a 5 ans, jour pour jour, 130 personnes sont mortes, tuées par des terroristes, et 350 ont été blessées à Paris, au Bataclan, rue de Charonne, rue de la Fontaine au Roi, rue Bichat et aux alentours du Stade de France. Des hommages sous haute sécurité leur ont été rendus dans la journée, et la Tour Eiffel s'est éteinte à 20 h ce soir.
La loi recherche, portée depuis près d'un an par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, approche d'un vote définitif à l'Assemblée nationale après son approbation en commission mixte paritaire cette semaine. Et le moins qu'on puisse dire est que l'inquiétude de la communauté universitaire n'est pas apaisée. Aux reproches déjà anciens envers une réforme qui ne finance pas suffisamment la recherche et précarise ses personnels, s'ajoute la véritable bronca soulevée par deux amendements adoptés en commission cette semaine. Le premier prévoit des dérogations au processus de qualification, lequel est une sorte de contrôle national des personnes ayant le droit d'obtenir un poste dans le supérieur. Cette procédure, qui fait l'objet de controverses anciennes, pourrait être contournée par les présidences d'université. Si l'université française est traversée par un débat de fond sur cette procédure de qualification, un point fait aujourd'hui l'unanimité, la réformer en force, sans vision et sans consultation, n'est sans doute pas des plus productifs. Signe de la complexité de cette question, c'est des très conservatrices facultés de droit qui est issu un appel à la grève, grève des cours en ligne sous le mot d'ordre écran noir. L'autre amendement, qui met le feu aux poudres, prévoit une amende de 45 000 euros et 3 ans de prison pour quiconque s'introduirait dans un établissement d'enseignement supérieur pour en troubler le fonctionnement. Les représentants et représentantes des personnels, des étudiants, dénoncent une atteinte grave à la liberté de manifester, comme l'explique la représentante du syndicat local à l'ENS, Anouk Tossac.
Évidemment, je trouve ça extrêmement grave. Mener des actions sur leur lieu d'études, c'est un moyen pour les étudiants et les étudiantes de se réunir, d'être visibles et de lutter pour de meilleures conditions d'études. Donc on est pris en fait dans un fonctionnement extrêmement autoritaire où on s'attaque à nos lieux d'études tout en nous empêchant de protester. Et c'est quelque chose au niveau du syndicat qui nous met d'autant plus en colère que c'est en train de se passer dans un contexte de confinement où finalement les moyens qu'on a de s'opposer et de montrer notre désaccord et de réagir à cette exposition sont extrêmement réduits.
Et par rapport au projet de loi sécurité globale qui va être débattu à l'Assemblée à partir du 17 novembre prochain, celui-ci a été porté par deux élus de La République En Marche et son article 24 du projet limiterait, voire interdirait la captation et la diffusion d'images identifiant les forces de police en exercice. En clair, il serait impossible d'identifier les membres des forces de l'ordre dans les cas des bavures, de les filmer durant les manifestations par exemple. Que l'on soit citoyen, citoyenne ou journaliste. La défenseure des droits Claire Hédon s'est dit préoccupée par le texte et a rappelé que l'information du public et la publication d'images relatives aux interventions de police sont légitimes et nécessaires au fonctionnement démocratique.
Et à propos de violences policières, Mediapart et Street Press révélaient hier dans une longue enquête les violences systématiques des policiers du commissariat du 19e arrondissement à Paris, des violences qualifiées de torture, et pour cause, les témoins et les victimes rapportent des passages à tabac en groupe de personnes entravées, des violences et des humiliations sur des personnes blessées ou handicapées, des violences sexuelles ainsi que de faux documents médicaux passant sous silence les conséquences des exactions subies. C'est également la BAC du 19e arrondissement qui avait été responsable en 2017 de la mort de Liu Xiaoyou, dont la famille demande toujours vérité et justice. Et puis une constante, les insultes racistes et le choix des victimes de couleur par ces policiers. La lecture éprouvante de cette nouvelle enquête confirme, s'il était besoin, l'urgence de se saisir du problème des violences policières et du racisme systémique qui traverse des pans entiers de l'action publique. Et pour terminer cette édition Nouveau Couac retentissant pour la lutte prétendument antiterroriste en France, à Albertville, ce sont 4 élèves de CM2 qui ont été interpellés jeudi dernier à leur domicile sous la surveillance d'agents lourdement armés et le regard médusé de leurs parents. Si le professeur n'avait pas montré les dessins, il n'aurait pas été tué. Voilà la phrase prononcée en classe au sujet de l'assassinat de Samuel Paty, qui a valu à Emira 10 ans de passer une journée au poste. Les bravades du ministère de l'Intérieur Gérald Darmanin sur les réseaux sociaux n'ont pas empêché un rétropédalage express du parquet quelques jours plus tard. Reste que les enfants traumatisés ont dû changer d'école après ce témoignage d'affection de notre mère République, parfois un peu envahissante.
Et c'était le journal international et national. L'actualité est loin de s'arrêter pendant ce deuxième confinement. Il va donc falloir nous faire un petit tour des médias pour comprendre tout ça.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence hein, cette revue de presse avec...
Et c'est la revue de presse écrite par Marie, élue par Victor. Si l'on devait résumer les articles de la presse du jour, on pourrait dire qu'ils nous incitent à aller au-delà des idées reçues.
Et oui, dans l'Obs, Pascal Richer nous prévient que non, le trumpisme n'est pas restreint au ranch texan ni même à l'Amérique. L'éditorialiste, en effet, alerte sur l'existence d'un trumpiste made in France. Il explique que la société française, fragilisée par les crises multiples, est de plus en plus perméable à la vision trumpienne du monde qui repose, je cite, « sur l'aspiration à la liberté, la recherche d'un homme fort, le rejet du libre-échange, la xénophobie, la détestation des médias et des élites et la méfiance ». La façon dont les Français s'informent se trumpise elle aussi, poursuit-il. La France est l'un des pays d'Europe les plus ouverts aux fake news et deuxième pays du monde en termes de fréquentation des sites QAnon. Pour remédier ça à ça, écoutez Transistor. Pour les politiques, deux choix donc. Adopter par démagogie la posture de Trump ou proposer un projet qui corresponde à nos valeurs tout en répondant aux besoins qu'a révélé cette trumpisation de la société. La protection des classes sociales abandonnées par le système mondialisé, des élites moins distantes, le retour d'une idée de nation et du made in France. Coucou Arnaud.
Et quelles autres idées reçues sont battues en brèche par la presse du jour ?
Eh bien, alors que dans les pages des journaux, les rescapés du Bataclan expliquent comment ils arrivent à se recoudre à une vie après avoir survécu à l'horreur, Le Monde nous fait part d'une étude récente selon laquelle la société française est ressortie plus tolérante et moins raciste des attentats de 2015 et 2016. Les chercheurs ont établi un indice de tolérance à partir des questions mesurant l'état d'esprit d'un échantillon représentatif de la population à l'égard des minorités. Leur résultat, cet indice de tolérance a augmenté entre 1990 et 2019, sans doute en raison du renouvellement générationnel et d'un meilleur accès à l'éducation, et a aussi nettement augmenté après les attentats de 2015 et 2016.
Et alors comment cela est-il expliqué ?
Eh bien en France, les politiques et médias ont traité les événements d'une manière qui a empêché la mise en place d'une dynamique autoritaire, en distinguant clairement djihadisme et islam et en produisant un récit d'unité nationale. Les auteurs déplorent donc qu'aujourd'hui la réponse soit avant tout sécuritaire et l'unité nationale que l'on cherche à mettre en scène plus intransigeante. Les discours qui remettent en cause les rayons soi-disant communautaires des supermarchés ou accusent les chercheurs d'islamo-gauchisme alimentent pour eux une rhétorique de division semblable à celle qu'on observait dans les États-Unis post-11 septembre.
Et tout à l'heure, tu parlais bien de trumpisation de l'information. Est-ce que le documentaire Hold Up, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, a quelque chose à voir avec ça ?
Et oui, il est à la une de tous les journaux. Libé titre « Hold up, le virus du complot » et s'attache à démonter les fausses informations véhiculées par ce documentaire de 2h45 durant lesquelles des personnalités brandissent à bout de bras des captures d'écran falsifiées ou des chiffres sortis de leur chapeau pour affirmer que le Covid-19 est un complot de l'élite mondiale et des big pharma contre les pauvres. Monique Pinson-Charlot affirme même que nous sommes dans la troisième guerre mondiale, je cite « Il y a un holocauste qui va éliminer la partie la plus pauvre de l'humanité ». Pour nous expliquer que le confinement est inutile, les auteurs annoncent que la mortalité a explosé entre le 15 mars et le 15 avril, période où nous étions confinés, oubliant le fait que les décès interviennent en moyenne 3 semaines après la contamination, et qu'il est donc logique que le pic de mortalité de mort ait eu lieu 3 semaines après la date du confinement. On nous apprend aussi que les médias auraient été incités financièrement à signaler les cas de contact, montrant pour justifier leurs propos une capture d'écran d'un article de Libération qui montre justement que cette rumeur sur les primes aux médecins est fausse. Alors même si certaines des critiques émises sont recevables, le documentaire joue sur l'émotion plus que sur la raison, ne laisse aucune place à la contradiction, s'appuie souvent sur des données fausses ou manipulées par des intervenants au profil parfois très étonnant. Christian Perron affirme que la maladie de Lyme serait due à une prolifération cachée de tiques modifiées par un chèvre nazi. Sylvano Trotta, lui, pense que la lune est creuse, il n'y a pas qu'elle par ailleurs. Pour comprendre les rouages bien huilés de la diffusion de thèses complotistes, je vous conseille d'ailleurs d'écouter Mécanisme du complotisme, une série documentaire sur France Culture qui s'intéresse à la manière dont une théorie complotiste peut devenir un phénomène culturel.
Et en parlant de phénomène culturel, d'ailleurs, t'aurais pas des conseils pour se déconfiner un peu l'esprit ?
Alors Marie en a plein pour vous, et il y en a notamment tout un tas dans le monde du jour. Atteindre la canopée depuis son canapé en se laissant immerger dans l'étoile du douanier Rousseau avec le musée d'Orsay. Mettre les voiles en surfant sur la toile et en participant à la nuit des musées en ligne pour une visite à la bougie du palais du facteur cheval, ou une promenade guidée dans un jardin zen japonais offerte par le musée Guimet. Entendre les voix qui résonnent depuis notre smartphone en regardant les pièces mises en ligne gratuitement par la Comédie Française le samedi à 20h30. Sinon, l'Obs nous apprend que le président du Turkménistan s'est offert une statue en or de chien à la baille, sa race préférée, qu'il avait offert à Poutine pour son anniversaire. On ne sait pas toujours si un bulldog en or massif au milieu des bâtiments soviétiques délabrés peut être considéré comme de l'art moderne. Les moques gratuits du Centre Pompidou sur l'art contemporain seront sans doute de bons conseils. Et vous savez quoi ? Je pense que pour faire face aux assertions de hold-up et la trumpisation de l'information, il faut faire attention à ne pas devenir des pigeons.
Des pigeons, c'est-à-dire ?
Alors non, écoute ce que nous apprend Le Monde. New Kim, 2 ans, est enfermé dans un lieu tenu secret en attendant son déménagement sous la surveillance d'une société privée de sécurité.
Attends, tu nous parles de quoi là ? D'une affaire sordide de trafic de bébés japonais ?
Mais non, c'est une affaire de colombophilie. Alors non, la colombophilie n'est pas l'attrait pour le trafic de poudre blanche ou les exploits du navigateur génois. C'est l'art d'élever et de faire concourir les pigeons voyageurs. Un sport non officiel né en Belgique au 19e siècle, sur lequel on attend ma chronique, et sur l'organisation de la prestigieuse Million Dollar Pigeon Race. C'est apparemment passionnant. New Kim, c'est donc cette pigeonne voyageuse détentrice de nombreux records et mise aux enchères sur le site Pigeon Paradise, Pipa pour les intimes, qui se transforme en Biba quand on est enrhumé, mais au fond c'est pas si grave parce que dans les deux cas ça parle de pigeons. Les enchères ont atteint 1,3 million d'euros, mais ça va encore grimper. En 2018, un Taïwanais a payé son pigeon 2,78 millions d'euros. N'empêche, c'est plutôt rentable quand on sait que les victoires de son volatile dans les épreuves de 500 km ont permis au propriétaire de gagner 13 voitures. Faire courir les pigeons, ça rapporte donc gros, et ce sont désormais les Chinois qui sont friands de colombophilie et prêts à investir dans des athlètes volants.
Donc c'est sur cette info un peu plus légère que tu vas finir la revue de presse de Marie.
Alors presque, parce que je voudrais vous dire dans quoi investir, et non, je n'ai pas lu Challenge. Dans le vaccin Pfizer, peut-être, oui, mais... Cette famille de vaccins à acide nucléique n'a jamais été utilisée en santé humaine et l'étude ne permet pas d'avoir d'informations suffisantes sur les effets secondaires. Préférez donc pour l'instant le logiciel d'IA créé par des chercheurs du MIT et capable de distinguer une toux provoquée par le Covid d'une toux classique. Téléchargeable sur smartphone, l'appli pourrait être utilisée dans les entreprises, restaurants ou universités. Et pour investir votre temps dans une lecture utile, rien de mieux que de vous plonger dans l'ouvrage « Sigy, la mère » de Cynthia Fleury. Ni Christophe André, ni Aurélien Barreau. Elle adopte un regard lucide sur notre époque et parle du ressentisme, du courage de faire émerger quelque chose de nouveau dans cette période troublée et de déployer des chemins alternatifs riches d'enseignements.
Merci Victor pour avoir lu la revue de presse de Marie.
Jusqu'à 21h, toute l'actualité mixée, égalisée, montée, enregistrée, captée, compressée,
diffusée,
mixée, égalisée, montée, enregistrée, diffusée, amplifiée.
Tu entends juste là.
Et c'est le billet politique avec Nicolas.
Oui, bonjour Mathilde. Alors,
c'est le mouvement Nuit debout se poursuit. C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets seront abordés. Il sera mon invité en direct.
Nous étions beaucoup le week-end dernier à être scotchés devant CNN pour rafraîchir la page internet du New York Times, étourdi par l'attente, bloqué devant la Pennsylvanie ou le Nevada, si bien que l'image rémanente des rectangles bleus et rouges est restée accrochée pour nombre d'entre nous à nos rétines fatiguées, et ce au moins jusqu'à samedi soir. Heureusement, cette carte a vite laissé place sur nos fils d'actualité au sourire un peu trop parfait de Joe Biden. Ça y est, c'est lui, c'est statistiquement sûr. La jauge a dépassé 270. Vous pouvez faire autre chose. Un homme sent de nouveau à la tête du monde libre. C'est tous, ce n'est pas assez, mais c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, c'est un bon homme. Biden, c'est même peut-être un homme bon. Arrêtons d'être cynique. Mais par le deuil comme il l'a été, doux comme il l'est dans sa manière de formuler les choses, et même parfois drôle quand il se met en scène avec Obama, c'est plus qu'un collègue. On le voit, c'est un ami de l'ancien président. Ça rassure. Il prendra soin de son peuple, Biden. Il prendra soin du monde comme il a pris soin de ses amis, ou au moins, il essayera. Donnons-lui cette chance. J'arrête tout de suite. Il n'a pas réussi à totalement me convaincre, et je vais vous expliquer pourquoi. Vrai. Biden a le charme qu'ont les modérés, cet art du laisser paraître que l'on ne dépasserait jamais certaines bornes, et cette sensation rassurante mais si étrange à ressentir pour les militants de gauche. Cette aura assurément transmise par Birgit Nyborg, par exemple, qui est dans l'excellente série Borgen, une première ministre danoise dont la mesure politique, envers et contre tout, contribue à l'admiration qu'on lui porte. On aime ne pas les voir céder aux instincts primaires, aux passions tristes. C'est ce qui nous fait encore rire quand on pense au débat de l'entre-deux-tours de 2017, peut-être. J'ai donc essayé de mettre le doigt sur cette mystérieuse vertu qui fait céder. Devant leur poste de télévision, même les âmes les plus rebelles, quand tout va mal. Et j'ai pas trouvé mieux que la notion de décence et tout l'imaginaire qui l'entoure. D'abord, parce que c'est ce qu'on lit aujourd'hui. La presse états-unienne titre, ici et là, que la décence est enfin de retour. Ce qui départageait nos deux candidats n'était pas une affaire de programme, mais je cite, de décence humaine. Encore un petit détail à élaguer, decency en anglais, cela veut également dire honnêteté. On est donc un peu plus généreux aux États-Unis quand on dit de quelqu'un, et en particulier d'une personnalité politique, est décente. C'est d'ailleurs ce terme même qui avait causé une polémique d'une magnitude inouïe moins d'un mois avant les présidentielles américaines, cette fois de 2008. Refait la scène. John McCain, candidat républicain en plein meeting, répond aux questions du public quand dans l'audience, une militante s'empare du micro en lui disant qu'elle est inquiète et qu'elle a peur de l'éventualité d'une présidence d'Obama parce que, je cite, c'est un arabe. Bien, McCain lui répond que non, ce n'est pas un arabe, c'est un decent family man. En fait, il y a tout dans cette scène quelque peu lunaire. La décence, c'est étymologiquement ce qui convient, ce qui est bien formé, ce qui sied. Et ici, John McCain sape probablement une partie de sa campagne en reconnaissant à son adversaire que c'est avant tout un homme honnête. Mais il ne peut le faire qu'en refusant au passage toute référence à l'arabité, à l'anomie du personnage. Et parler de la décence comme une catégorie politique ou même sociale, cela implique tout un ensemble d'exclusions constitutives de ce type. Tiens, parlons par exemple de l'étonnante postérité de la notion de décence ordinaire, utilisée profusément, mais sans forcément en donner une définition claire, par George Orwell. N'oublions pas qu'avant d'écrire 1984, Orwell est journaliste-reporter, et c'est dans ce cadre qu'en documentant la vie d'ouvriers du nord de l'Angleterre, il renforce des convictions socialistes qu'il défendra toute sa vie. La décence ordinaire, c'est selon lui cette capacité populaire à être enclin à l'entraide, à la fraternité, à un comportement, je cite, « moral », et donc à ne pas céder d'ordinaire au bas réflexe. Mais voyez-vous, il est bien périlleux de faire parler les morts. Et Pierre-Louis Poyot, dans un article pour Le Vent se lève, nous montre que toute une classe d'éditorialistes y est allée de son commentaire. Entre la mise en place du comité Orwell, créé en 2015, rassemblement hétéroclite de journalistes au profil parfois très droitier, qui pourfend ainsi un monde uniforme et post-national, je cite évidemment, et dénonce le petit homme déraciné qui serait né de la mondialisation, tout en se revendiquant de la pensée de l'écrivain, l'on trouve notamment Alexandre Devecchio, responsable du Figaro Vox. D'autre part, Michel Onfray s'est également emparé du concept orwellien au service d'un déclinisme toxique pour faire l'éloge d'un peuple qui, par essence, saurait mieux faire parce que décent, et donc, je prolonge ici l'idée, parce que conforme en termes sociaux, culturels, cultuels, parce que dans les lignes. Cette idée de la décence surplombante, c'est la formation d'une communauté imaginée qui moralise la vie des présupposés honnêtes gens sans jamais oser dire qu'en filigrane, on y exclut ce qui nous paraît pas assez honnête, pas assez républicain. Bon, c'était un gros détour pour finalement vous dire que se résigner à la décence, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose d'anodin. Non seulement parce qu'évidemment, évidemment que l'on aura besoin de plus d'ambition politique que l'idée d'un leader ou d'une classe politique saine d'esprit. Mais que faire primer la décence, c'est aussi politiser la morale individuelle et dépolitiser en retour les structures médiatiques et culturelles qui font notre imaginaire du social aujourd'hui. Ces structures mêmes qui nous forcent, au bout du compte, à avoir recours à la décence. En somme, c'est faire gagner le jeu électoral.
Journal radiophonique amplifié de Transistor, en direct avec vous jusqu'à 21h. Attention à vos oreilles.
Il est 20h25 sur Transistor, vous écoutez toujours votre journal radiophonique amplifié. Et après avoir parlé des jeux électoraux, on va parler de jeux un peu plus sportifs avec Victor.
Un entraîneur, ça doit être entraînant.
Oui, mais là ça pique.
Respectez !
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Fou, vous êtes un salaud.
C'est vrai que l'année dernière, on a eu un virus. L'année dernière, on n'avait pas d'opium, je te rappelle.
Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable.
Pour ce confinement saison 2, les autorités sanitaires et le gouvernement ont décidé de continuer de donner au sport un peu plus d'importance que dans les premiers épisodes. Après un Tour de France marqué par un maillot jaune français perdu à cause d'un bidon, un tournoi de Roland-Garros où les espoirs français auront tenu dans les mains d'un mec ayant réussi à rendre l'association Hugo et Gaston crédible, et une défaite 2-0 contre la Finlande en football cette semaine, la France a décidé de relever la tête. Ou tout du moins pour le sport professionnel qui, lui, n'a plus le temps ni d'ailleurs le droit de chômer. Depuis la fin du confinement, les sportifs français et d'ailleurs du monde entier enchaînent les matchs sans période de pause ni préparation physique adaptée. Résultat, par exemple, dans le championnat anglais, où les matchs se suivent tous les 4 jours, 86 joueurs sont déjà blessés, un record en la matière. Même problème pour d'autres sports collectifs, comme le rugby, où la répétition des chocs commence à inquiéter la plupart des médecins, alors que certains joueurs attaquent leur club en justice pour des cas de commotion cérébrale non prise en compte.
Donc l'économie du sport, qui craignait pour sa santé en mars, semble finalement être sauvée.
Alors on pourrait dire que oui, en effet, au détriment du corps des athlètes, certes, mais relativement sauvé. En tout cas, en ce qui concerne les sports collectifs masculins, qui, malgré les déboires du groupe espagnol Mediapro, qui est responsable de la diffusion de la Ligue 1, ces sports-là paraissent plutôt sauvés par les immenses revenus des diffuseurs télé qui ont pu continuer à travailler et imposent aujourd'hui un rythme acharné aux joueurs. En revanche, la situation s'obscurcit pour les habituels oubliés du monde du sport. Alors d'un côté, on a le sport professionnel féminin qui est toujours aussi peu médiatisé et donc de fait les revenus sont beaucoup moins importants. Même si les matchs ont repris, ceux-ci sont peu visibles et surtout la situation des joueuses est tue. Alors que dans plusieurs clubs masculins, des joueurs refusaient de baisser leurs salaires qui, je vous le rappelle, sont souvent évalués à plusieurs millions d'euros, une étude de la FIFPro démontre que les joueuses ont en moyenne perdu 47% de leur salaire à cause de la crise économique, tout en sachant que la professionnalisation reste très rare dans le milieu du sport féminin.
Oui, on avait vu que la pandémie accroissait toutes les inégalités. Et qu'est-ce qu'il en est alors du coup pour ceux qui ne sont pas professionnels ?
Et c'est là que la situation est encore plus terrible. Alors que nos voisins européens, l'Allemagne en tête, avaient préconisé à leurs habitants de continuer après à pratiquer une activité sportive régulière, la France est revenue à son cercle absurde d'un kilomètre autour du domicile, qui autorise une activité faite d'aller-retour et de tour sur soi-même. Un de mes voisins m'ayant aujourd'hui toutefois étonné en faisant du parapente, est-ce que la distance d'un kilomètre peut-elle aussi être considérée de façon verticale ? Je ne sais pas. Nous laisserons aux drones affrétés par la police pour surveiller les dangereux randonneurs, grands contaminateurs, de donner la réponse. En ascendant, le sport amateur, et donc comprendre généralement bénévole, ne dégageant pas d'activité économique majeure et ne permettant pas une consommation massive, un peu comme l'éducation en soi, est lui au fond du gouffre. Les pertes en termes de cotisations et d'autres adhésions s'élèvent à 260 millions d'euros depuis septembre, avec une diminution de 20% des adhésions dans les différents clubs. 20% de sportifs en moins dans nos sociétés sédentaires, Alors que, comme le rappelle un courrier du mouvement sportif français adressé au président de la République par l'intermédiaire du comité olympique, pratiquer un sport est bon pour la santé et permet de mieux résister à l'épidémie. La hausse de l'inactivité touche bien évidemment encore plus durement les populations déjà fragiles. Nous ne pouvons que craindre impuissance et conséquences encore plus désastreuses pour la santé publique de demain. Le mouvement sportif français pointe ici du doigt une autre conséquence sociale de la crise sanitaire. Les classes sociales les plus fragiles économiquement sont les plus touchées sanitairement et économiquement et risquent de se voir touchées par une pérennisation de cette précarité sanitaire à cause d'une inactivité forcée.
Mais au-delà des courriers officiels, il paraît qu'il y a certaines actions qui prennent aujourd'hui de l'ampleur pour dénoncer cette aberration sociale et sanitaire.
Et tout à fait, ce soir, sur un sommet du massif de Belledonne, au-dessus de Grenoble, un cœur lumineux visible depuis la ville a été allumé par plusieurs acteurs de la montagne, et notamment des sympathisants de l'association Mountain Wilderness. Depuis plusieurs jours, plusieurs montagnards demandent un élargissement de cette mesure du 1 km 1 heure de chez soi, en mettant en avant d'une part la possibilité de pratiquer une activité physique qui soit responsable et qui ne risque pas de faire appel aux services d'urgence des hôpitaux, tout en permettant d'autre part de donner une bouffée d'air salvatrice psychologiquement pour faire face au confinement. Et pour les non-montagnards, la vision maritime et bretonne d'une escapade comme celle-ci est disponible sur le site de Transistor pour donner un peu d'air marin à tout le monde.
Merci beaucoup Victor, et tout de suite Mathilde, tu vas nous faire ton billet écolo.
Journal radiophonique amplifié, le billet écolo avec Mathilde.
Il commence à se faire tard à 20h passées de 31 minutes, je sais pas vous, mais moi je commence à avoir faim. Est-ce qu'il serait pas l'heure de passer au fromage par hasard ?
Oh, certainement, et Mathilde, il paraît que tu vas nous parler de lait dans ton billet écolo, et plus particulièrement de l'ogre du lait, et j'insiste sur cette terminaison en « et » bien sudiste.
Oui, je vais vous parler de lait et de fromage, puisque l'ogre du lait, c'est une enquête menée par 4 journalistes de Disclose, dont Inès Léraud, connue pour ses enquêtes sur l'agroalimentaire breton et les algues vertes, qui ont aussi donné lieu à une BD et à des épisodes de l'émission « Les pieds sur terre » sur France Culture. Cette fois-ci, l'enquête porte sur le géant du lait Lactalis, qui a 60 usines en France. Alors, pour faire bref, les petits pots laitières, le Roquefort Société ou le Camembert Président, tout ça, c'est Lactalis. L'enquête révèle que sur les 60 usines Lactalis en France, plus de la moitié sont en violation avec le Code de l'environnement, notamment à cause de leurs rejets toxiques dans les cours d'eau. C'est par exemple le cas pour des rivières du parc naturel régional du Vercors ou celui des volcans d'Auvergne. Mais le plus choquant, c'est encore les subventions que reçoit Lactalis pour polluer moins. Inès Léraud a comptabilisé à environ 1 million d'euros par an depuis les années 2000 le montant des subventions qui lui sont accordées, alors que l'entreprise pollue en toute impunité, comme l'atteste par exemple la pollution en 2017 de la rivière de la Seiche en Ille-et-Vilaine, où plus de 5 tonnes de poissons morts ont été ramassées à la suite des rejets d'une usine Lactalis en amont.
Bon, je te trouve un petit peu pessimiste, moi. Pourquoi dans tes billets écolo, tu ne nous parles pas de nouvelles positives dans la lutte contre la pollution ? Alors, ok, il reste beaucoup à faire pour lutter contre la pollution de nos rivières, apparemment, mais prenons la pollution atmosphérique, par exemple. J'ai ouï dire que BMW aurait annoncé que d'ici 2030, un véhicule sur deux vendu en Europe serait électrique. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça ? C'est assurément une bonne transition, en tout cas.
Alors, la production de voitures électriques, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Bah, je te dirais presque autant que la sortie de l'iPhone 12.
Ah
quoi.
Oui.
Donc, finalement, pas vraiment. En fait, il y a un point commun, d'ailleurs, entre ces deux innovations techniques fabuleuses qui vont rendre notre quotidien si facile. Leur point commun, c'est surtout leur impact sur leur environnement, sur notre environnement aussi, qui n'est absolument pas négligeable. Elles sont toutes les deux consommatrices de terres rares, ces métaux précieux comme le néodyme, par exemple, qui est utilisé dans les batteries des voitures électriques, ou le coltan et le cobalt pour vos téléphones portables, et le mien d'ailleurs. En tout cas, la demande en terres rares, du fait de ces innovations techniques, augmente de 6% par an dans le monde. Or, la concentration de ces métaux diminue de plus en plus dans les mines dans lesquelles ils sont exploités. Les mines doivent être de plus en plus grandes, les déchets miniers sont de plus en plus importants, pour une extraction de minerais en quantité de plus en plus faible. Un article paru dans Nature cette année a mis en évidence que ces nombreuses mines participaient de manière conséquente à l'accélération de l'érosion de la biodiversité. Et c'est sans compter les impacts sur la santé des déchets miniers, par exemple ceux issus de l'exploitation du néodyme sont radioactifs. Bon, je suis mauvaise langue, vous me direz, puisqu'Apple a annoncé que justement, pour le tout dernier iPhone 12, 100% des métaux rares utilisés dans sa construction seraient originaires de terres rares recyclées. Celles-ci servent par exemple aux aimants qui participent au bon fonctionnement de votre smartphone.
Bon ben voilà, ça te satisfait pas peut-être ?
Eh bien non, Rémi, toujours pas. Alors oui, bien sûr, c'est toujours mieux que les matériaux proviennent du recyclage que directement de la mine. Et les pratiques de recyclage des métaux doivent forcément s'intensifier si on veut éviter des politiques extractivistes aux conséquences socio-environnementales désastreuses. Mais pour cela, il faut quand même bien regarder avec précision comment fonctionnent ces filières de recyclage. Comme le dit la chercheuse Judith Pigneur qui a fait sa thèse sur le néodyme, en Europe, par exemple, les filières de recyclage doivent utiliser des minerais directement extraits de la mine pour recycler d'autres minerais. Donc on voit bien qu'il y a un problème quelque part, et c'est surtout sans compter sur l'effet rebond. Si on assure le consommateur que le produit qu'il achète est ouvert, tout propre, sans conséquence pour la planète, il aura peu de scrupules à continuer à consommer. Or, si l'on parvient à recycler ces métaux rares, pourquoi ne pas envisager d'utiliser ces derniers pour des usages au caractère essentiel ? À voir toutefois ce que la société déciderait à propos du caractère essentiel de sortir régulièrement de nouveaux modèles de smartphones.
Merci beaucoup Mathilde pour cette petite mise au point.
C'est toujours le journal radiophonique amplifié sur Transistor, fer de lance d'un néo-gauchisme que je m'applique à détruire tous les jours sur Transistor jusqu'à 21h.
Et il est 20h36 sur Transistor, c'est presque la fin de votre journal amplifié, mais avant de terminer, on va parler un tout petit peu de culture. Et à 20h37, je vais vous parler culture, mais aussi engagement politique dans la culture, puisque la Société des réalisateurs de films, ainsi que d'autres personnalités du cinéma de France et d'ailleurs, parmi lesquels Raymond Depardon, Ken Loach ou Jacques Audiard, ont publié mercredi une tribune dans Libération pour s'opposer au projet de loi Sécurité globale, qui d'après mot est une censure pure et simple et préfigurerait une société gouvernée par la peur. Les auteurs de cette tribune soulignent que des films comme le récent et percutant « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne n'auraient pas pu être diffusés. Et parce que l'on ne peut plus se nourrir de ces images au cinéma, tournons-nous vers les musées, continuent d'offrir un accès virtuel bien sûr à leurs expositions par la Nuit des musées qui a lieu demain soir, le 14 novembre, depuis chez vous. Non seulement, comme l'a dit Marie, vous pourrez réaliser des visites en ligne au Grand Palais, au musée Picasso ou au musée Yves Saint-Laurent, au musée de Marseille, le Muséum ou au musée des Beaux-Arts d'Annecy, mais vous pourrez aussi écouter des programmes, des podcasts, des récits, des histoires et des balades sonores proposées par les différentes institutions pour étayer un peu les offres qui ne reposent pas que sur l'image mais aussi sur le son pour vous faire entrer dans leurs grandes expositions. Et je crois que Nicolas avait aussi quelques recommandations pour de la douceur à vos oreilles en ce temps de confinement.
Oui, en effet, Mathilde, écoute, il y a vraiment plein de sorties musicales en ce moment. C'est pas ça qui manque. Je pense qu'il y a un récit commun, qui, en tout cas dans la pop contemporaine, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont mis à faire de nouvelles collaborations pendant le premier confinement entre eux, des choses à distance, puisqu'ils ont tous matériel chez eux de toute manière, et ça a donné lieu à des sorties. Pourquoi j'ai dit peut-être pas des fourmis, des sorties incroyables. Et je veux parler par exemple du dernier single de London Grammar que j'ai trouvé tout simplement magnifique, qui s'appelle California Soil. Va faire partie d'un album qui aura le même titre et toujours avec la chanteuse Anna Reid qui a une plus qu'envoûtante, c'est une voix vraiment calme, posée. Je ne sais pas si vous voyez Mais bon, puisqu'on parle de voix magnifiques sans être forcément des voix de diva, Sam Smith a sorti un album il y a quelques jours qui s'appelle Love Goes et la chanson éponyme en collaboration avec un autre chanteur qui avait disparu pendant un long moment de la scène qui s'appelle Labyrinth et très beau. Je vous encourage à aller écouter une version live de cette chanson avec un orchestre entier qui a été enregistré dans les studios d'Abbey Road. Ça vaut le détour, ça vaut le détour. Dans un autre genre, il y a 10 jours, il y a un EP du groupe 07, groupe de down-tempo british qui sortait surtout des très belles productions au début des années 2000. Et c'est notamment le groupe qui a révélé la chanteuse Sia. Donc avant qu'elle fasse de la pop, elle faisait surtout ce genre de musique-là. Le down-tempo, c'est de la musique qui peut être affiliée au trip-hop, par exemple, dont le plus fidèle représentant est Massive Attack. Là, ils ont sorti un EP d'une musique très calme, encore plus calme que ce qu'ils faisaient avant, ce qui paraissait pas vraiment réalisable. Un EP réalisé à distance, d'ailleurs, avec le chanteur... je vais retrouver son nom. Loustone, voilà, le chanteur dont j'ai découvert la voix en écoutant cette EP. Génial, génial. Et puis voilà, on peut parler d'autres sorties évidemment qui ont été marquantes, comme S16, le nouvel album de Woodkid. Woodkid a déjà fait toute la tournée des médias, donc je ne vais pas vous répéter ce qu'on a dit sur lui. C'est le deuxième album de Woodkid. Il faut qu'en tellement d'années de carrière, il est sorti que deux albums, mais c'est un album, ça se voit très, 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 très mûri, qui garde tout le côté en même temps techno, mais en même temps très organique du premier album. Tout en innovant, tout en réussissant quand même à innover. Bon, je recommande évidemment ses clips parce qu'il est réalisateur de clips également. Ça, on ne le savait pas, mais Woodkid, avant d'être artiste, a réalisé plein de clips. Il a notamment réalisé le clip de Born to Die de Lana Del Rey. Plein de choses géniales. Bref, je recommande le single Goliath de l'album S16 qui est vraiment très bien. Bon, sinon, il y a 2 mois, il fallait que je vous en parle. C'est une sortie massive, une sortie très importante. Alors peut-être que Nathan en avait parlé dans la musicienne de rentrée, mais l'album QALF de Damso, ça veut dire Qui Aime Like Follow, a été un séisme littéral, non seulement en Europe, mais en Afrique aussi. Il est retourné à Kinshasa, sa ville d'origine en RDC, pour vendre son album, pour en faire la promo. Et je vous encourage à voir les images de ce retour-là. Il y a un reportage entier avec plein de photos super qui est sorti sur... dans un Libé, je ne sais plus quand, je pense que c'était fin septembre, à la sortie de cet album-là de Damso. Et bon, je vous recommande pour finir cette petite interlude musicale, 2 chansons de cet album, 911, une chanson coupe un peu avec le style de Damso. Si vous imaginez que Damso, c'est du rap un peu cru de gangsta, et ben non, il raconte là dans cette chanson qu'il est tombé love, tout simplement, avec une instru que je vous recommande, très calme, très chill, comme les jeunes disent. Ou alors une autre chanson un peu plus poignante dans le style qui s'appelle 2 toiles de mer, où il utilise en tant que sample un enregistrement, un message vocal de son fils. Vraiment... Plus 4 millions, c'est de la bonne musique, c'est de la musique bien produite et c'est, je vous le recommande. Voilà. Et j'ai pas encore parlé des mauvaises chansons.
Merci beaucoup pour ces conseils musicaux, Nicolas. Heureusement que tu es là pour nous parler des bonnes chansons qui vont réjouir nos journées et nos journées confinées. Et Victor, toi, tu as lu quelque chose récemment qui t'a bien convaincu aussi, plutôt du côté de la littérature.
Et oui, c'est l'ouvrage qui était sorti en septembre de cette année par l'historienne Mathilde Larère, c'est Rage Against the Machisme, qui est un livre qui fait une sorte de résumé de toutes les luttes féministes en France depuis la Révolution française. Alors la plupart des thèmes habituels y sont traités, on parle de colonies, on parle de communisme, on parle des émeutes du 19e siècle, on parle des guerres mondiales, on parle du vote, on parle de contraception et d'accès à l'IVG, et on parle du mouvement MeToo. C'est un livre qui sort du récit national qu'on a l'habitude de voir, ou juste plutôt de ne pas voir sur la place des femmes dans l'histoire française, et qui permet de remettre aussi... en point certaines légendes qu'on peut avoir, de refaire sortir quelques figures inconnues En tout cas, voilà, ça se lit très très bien. C'est drôle à lire parce que Mathilde Larrère a une écriture assez piquante et qui sort un peu des articles d'histoire auxquels on peut être habitué. Donc voilà, je le recommande. Ça fait à peine 200 pages. Ça se lit en 2 semaines ou 2 mois pour moi, mais normalement 2 semaines, c'est bon.
D'accord, merci beaucoup pour cette grande recommandation de Rage Against the Machisme de Mathilde Larrère. On a tous bien pris note et en plus on peut faire du pick and collect, donc on peut vraiment prendre le livre dans notre petite librairie à côté de chez nous. C'est fini pour le journal de la culture à 20h45, merci Nicolas et Victor. Et c'était la 68e édition du journal radiophonique Amplifié, en direct ce soir depuis le Vercors, Bordeaux, Paris, enclave de la cité U et les Clouts. On écoutait Nicolas Sendé, Rémi Cerda, Victor Andrade, on a lu les chroniques de Marie Douniac et il y avait Mathilde Picard. Le responsable de notre régie dématérialisée ce soir, c'était Rémi Cerda. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à aller sur le site de Transistor pour écouter toutes nos émissions.